Dans quelques jours, j'aurai le grand bonheur de raser la tête de Jean-Simon.
T'acceptes finalement?
Ben oui, je vais le faire.
Ah, t'es fine.
J'ai pas le choix.
Je trouve ça cool que ce soit toi qui me rases les cheveux.
Ben, je vois pas que ça pourrait être d'autre. C'est pas Sylvain, certain.
Non, Sylvain est à distance.
Non, je veux le faire.
Ben, mais merci, c'est le fun. Je trouve ça cool. On va mettre ça, on va faire un Facebook Live.
Mais j'ai hâte, surtout pour les favoris sur le côté.
J'aurais été capable de faire comme des. Je t'avais de pouvoir respecter mon 2 mètres de distanciation
juste avec
sociale avec mes cheveux en tirant sur mes couettes.
Tu mettras du gel pour ça tienne,
c'est
comme ça.
Là, comme ça, après ça, le monde, il se rapprochera pas.
C'est vrai. Mais la cause pour laquelle tu fais ça, Jean-Simon, c'est évidemment, bon, tu fais ça pour le camp.
Absolument.
Les enfants malades, c'est une cause qui t'a beaucoup interpellé. Si on revient un petit peu plus sérieux, tu veux-tu dire en premier pourquoi exactement tu as décidé de t'impliquer, toi, là-dedans?
Oui, ben, la principale raison, c'est que il y a des personnes très proches de moi qui ont été atteintes du cancer. Pas des enfants, mais ma belle-mère s'est battue comme une lionne contre le cancer du sein pendant plusieurs années. Récemment, plus près de moi, une personne très, très proche de moi qui vient d'être opérée pour le cancer de la prostate. Ça s'est bien passé, mais n'empêche, tu shakes là, quand il y a quelqu'un de proche de toi, puis tu vois les gens, leur réaction. Fait que là, je me suis dit, si des adultes ont cette réaction-là, vivent ces moments de détresse-là, imaginez des enfants maintenant. Un enfant de 4, 5, 6, 7 ans qui se fait annoncer qu'il y a un cancer puis qu'il y en a pour 2, 3 ans à se battre. Alors, je me suis dit, garde, la moindre des choses que je peux faire, c'est enlever mes cheveux. Tu sais, je suis quand même un peu orgueilleux sur la
assez
chevelure.
Assez fier aussi.
Ouais, je suis fier de mes cheveux. Je l'ai tout le temps été. Donc, c'est un certain sacrifice pour moi de le faire. En même temps, je me dis, ben, le contexte pourrait être très bien vu que je vis une catastrophe capillaire. Autant tout raser, autant faire pour une bonne cause. Puis en plus, ben, j'ai réussi à embarquer Paul Raphaël, le collègue du week-end.
Pour sa barbe.
Pour sa barbe. Alors, on pourra peut-être faire un drôle de mannequin avec mes cheveux puis la barbe à Paul Raphaël. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ou on pourra peut-être les donner s'il y en a assez.
Non, c'est pas assez long, par exemple.
Non, c'est pas assez long.
Un minimum. Mais vous êtes rendu déjà à
4 610 $. On s'était mis un objectif de 3 000 au départ. Là, on est à 4 610. J'ai mis ça à 5 000. Mais c'est le dernier droit. On veut continuer à recevoir. Là, je vais vous donner rapidement le lien pour donner. Puis on vous le redonnera après l'entrevue qu'on va faire. Là. Mais si vous voulez donner, www.webleucan.com/cogeco, COGECO, www.webleucan.com/cogeco. Chaque don compte, soit 2 $, 5 $, 20 $, on s'en fout. Il y a des auditeurs qui ont donné. Il y a des vraiment merci de votre générosité.
Puis pour parler un petit peu de la cause de Leucan, on va aller rejoindre tout de suite ma prochaine invitée. Si vous pensez que c'est difficile d'avoir un enfant malade en temps normal, évidemment, c'est excessivement difficile. Mais avoir un enfant malade en temps de pandémie comme c'est là, disons que les difficultés doivent être décuplées. On va aller parler de tout ça avec Nathalie Matt, c'est la directrice provinciale développement philanthropique à Leucan. Elle travaille maintenant depuis plus de 17 ans au service des enfants atteints de cancer et leur famille. Madame Matt, bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Ben, ça nous fait plaisir, Madame Matt. Bon, vous êtes là depuis 17 ans. Vous en avez vu passer, là, des enfants malades. Des fois, il y a des conclusions qui sont plus heureuses que d'autres. Comme je disais en introduction, en temps normal, c'est très, très, très difficile d'avoir un enfant malade. En temps de pandémie, c'est quoi les défis qui se sont ajoutés aux familles qui doivent vivre avec ça?
Il y a plusieurs défis parce que souvent, ils ont l'habitude d'être isolés. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un enfant est atteint de cancer, souvent, avec les traitements de chimiothérapie, ils vont devoir être isolés parce qu'ils ont un système immunitaire plus faible, donc immunosupprimé. Alors, à ce moment-là, ils ont l'habitude, les familles, d'être un peu plus isolées pendant les traitements. Cependant, malgré tout, l'isolement, il y a des activités que nous organisons à Leucan. Par exemple, au centre hospitalier, ils n'ont pas de limite de visite, par exemple. Ah. Juste pour vous donner un exemple concret, actuellement, les enfants qui sont hospitalisés ont le droit à un des deux parents seulement qui va les accompagner. Pas le droit de visite non plus de grand-maman, grand-papa, des frères et sœurs, etc. Donc, vous pouvez vous imaginer, ils ont l'habitude d'être isolés, mais là, ils sont vraiment isolés au cube. Parce que c'est vraiment juste à titre d'exemple pour les enfants qui sont hospitalisés. Par exemple, on pourra aborder le deuil si vous le souhaitez. On a quand même quelques familles qui ont vécu un deuil pendant la COVID. La perte d'un enfant, c'est très, très difficile. Donc, et les rites funéraires, peu importe nos croyances religieuses, etc., ça fait partie de l'apaisement. C'est-à-dire que c'est une façon de marquer le décès d'une personne, d'honorer sa mémoire, de rassembler la famille, de se sentir sentir soutenus. Et ça, c'est pas possible actuellement. Donc, c'est comme si on demande à nos familles de mettre le deuil sur pause et puis de reprendre ça plus tard. Vous pouvez vous imaginer.
Ben c'est ça.
Donc, c'est vraiment très difficile.
Pis c'était ça la question que j'allais vous poser, en fait, parce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui a eu un bébé récemment. Sa blonde a accouché il y a 2 semaines à peu près et il y a eu des difficultés là, bon, à l'accouchement qui font en sorte que le bébé est encore hospitalisé présentement. Et c'est ce qu'il me racontait. Il a le droit d'aller voir sa fille seulement quand sa blonde n'est pas là. Et donc, ils doivent, mettons, ils font des blocs de 2-3 heures à la fois. Quand lui quitte, ensuite, la mère de l'enfant peut venir voir son bébé. 2-3 heures après, la mère quitte et le père vient voir sa fille. Puis, c'est évidemment spécial à la COVID, là, présentement. C'est parce qu'il peut pas avoir les deux parents en même temps. Et je comprends que c'est un petit peu la même chose pour les jeunes de Leucan, là, présentement.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on est très, très présent. Nous, on a été considérés comme service essentiel dès le jour 1. Et toutes nos activités demeurent, c'est-à-dire nos activités de soutien psychologique, d'aide financière. On est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique. Donc, notre rapport à la recherche clinique, ce qu'on a dû mettre sur pause de notre côté, c'est le service de massothérapie, parce qu'on n'était pas capable de respecter la distanciation physique, bien entendu, et les activités socio-récréatives, leur briser l'isolement, etc. Mais sinon, on est vraiment là pour accompagner nos familles endeuillées. Le soutien psychologique est vraiment très, très en demande. Souvent, lorsqu'un l'enfant est atteint, un des deux parents doit quitter leur emploi pour accompagner leur enfant. Et là, donc, certains ont perdu leur emploi de façon permanente, temporaire. Soucis financiers qui s'ajoutent à tout ce qu'ils vivent déjà. Donc, je peux vous dire que les besoins sont grands. On a parlé beaucoup des moissons dernièrement, etc. Puis c'est parfait, mais il y a aussi d'autres causes là comme le cas qui ont des besoins qui sont très grands et on est là pour y répondre avec le camp et pour répondre aux besoins des familles.
Et Madame Matt, qu'est-ce que le camp exactement offre aux familles si moi je suis une famille puis j'ai un enfant qui est malade ou qui souffre d'un cancer malheureusement, si je fais affaire avec le camp, c'est quoi les avantages qu'ils vont m'être offerts finalement?
Oui, en fait, rapidement, tout de suite, le camp entre en fonction. On a la chance d'avoir 4 centres d'oncologie pédiatrique ici au Québec. Nous, c'est le CHUC. Donc, on fait partie de l'équipe multidisciplinaire, c'est-à-dire que rapidement, concrètement, dès qu'il y a un diagnostic de cancer, on fait partie de l'équipe multidisciplinaire, on apprend le diagnostic, on va rencontrer la famille. Donc, c'est pas les 12 travaux d'Astérix, là. Tout de suite, il y a quelqu'un qui va rencontrer la famille. Il est pas rare que une heure, 2 heures, une journée, 2 jours suivent pour qu'on puisse aller vous rencontrer pour offrir tous les soutiens psychologiques, l'accompagnement. On vous donne de l'information et on vous dit, peu importe ce qui vous arrive pendant tout votre parcours, que ce soit 1 an, 2 ans, 3 ans, une rechute que vous allez vivre, etc., le camp va toujours être très présent. Donc, soutien affectif, accompagnement, de l'aide financière, bien entendu. On a un service de massothérapie à l'hôpital qui est offert parce que les enfants vivent des douleurs souvent osseuses qui sont importantes. Ouais. Donc, on est là pour apaiser la souffrance. Un service de massothérapie au retour à domicile également. On a plusieurs activités socio-récréatives qui sont organisées pour briser l'isolement de nos familles. Et on a un service de sensibilisation scolaire pour permettre aux jeunes une meilleure réintégration dans son milieu scolaire. Et bien sûr, on est le principal bailleur de fonds de la recherche clinique qui a permis d'augmenter le taux de survie qui est passé de 15 à plus de 82 pour 120 ans.
Si quelqu'un se pose la question si donner ça vaut la peine pour le camp, sur le plan de la recherche, on vient d'en parler, de le mentionner un peu sur le taux de survie, là, mais qu'est-ce que ça a permis de ramasser tout cet argent-là pour la recherche en matière de cancer chez les enfants?
En fait, ce que ça permet, c'est d'obtenir les meilleurs protocoles de traitement ici au Québec. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Vous avez un enfant de 7 ans qui est atteint d'une leucémie lymphoblastique aiguë, qui a un stade avancé de X, qui a tel âge, c'est un garçon, etc. On regarde le sexe. Il y a une étude qui a été faite à quelque part dans le monde et quand on fait partie du COG, le Cancer Oncology Group, dans lequel on fait partie, c'est qu'on a accès aux meilleurs protocoles de recherche. Alors, ça veut dire que l'enfant qui est pris en charge reçoit le même protocole de traitement que s'il était traité à Boston ou ailleurs dans le monde. C'est ce que ça permet. Donc, ça nous permet d'obtenir les meilleurs protocoles de recherche. ça nous permet aussi d'avoir un consortium de recherche. Je vous donne un exemple. Moi, il y a 17 ans, quand je suis arrivée, on voyait très peu de tumeurs cérébrales chez les enfants. Et donc, quand est arrivée la première tumeur cérébrale chez l'enfant ici au Québec, bien sûr, l'équipe médicale a eu accès à un consortium de recherche pour pouvoir aller chercher le meilleur protocole de traitement qui s'adressait à cet enfant-là particulièrement avec les critères que je vous ai donnés, âge, sexe, etc., etc. C'est ce que ça permet. Et la recherche clinique, tout comme l'EUCAN, est non subventionnée par les gouvernements. Ça veut dire que si l'EUCAN n'était pas là pour être le principal bailleur de fonds, il n'y aurait pas cette possibilité d'obtenir ces meilleurs traitements-là ici au Québec dans nos 4 centres d'oncologie pédiatrique.
Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'avancée en termes de cancer chez les enfants, mais il y a tout le temps le même exemple qui me vient en tête parce que ça a été un cas qui a été connu, puis la personne qui est impliquée là-dedans est encore très connue aujourd'hui. C'est le fils de Pierre Bruno, Charles Bruno. Ouais. Pierre Bruno, depuis, je vous dirais, quelques années, il donne des entrevues, puis il dit tout le temps, si Charles Bruno était né aujourd'hui, dans l'époque où on est présentement, il serait guéri de son cancer. Il en serait sorti, il aurait survécu. Et à l'époque où on était, malheureusement, la recherche n'était pas assez avancée, ce qui a fait en sorte qu'il en est décédé. Mais aujourd'hui, on a avancé un point tel que la maladie que mon fils a eue serait guérie. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles parce que c'est concret, en fait. On a des cas vraiment concrets. Des fois, on a besoin de s'accrocher à ça, Madame Matt, on dirait. On a besoin de voir telle personne dans telle maladie. Aujourd'hui, le résultat, la conclusion aurait été bien différente. Parce qu'il y a des résultats, il y a des conclusions qui sont heureuses, mais il y en a d'autres qui sont plus malheureuses. Et il y en a encore, malheureusement, encore aujourd'hui, en 2020, là.
Oui, puis les gens me demandent, mais la recherche a tellement avancé, pourquoi on continuerait à donner? Pourquoi on continuerait à donner? Parce qu'on veut continuer à augmenter le taux de succès, bien entendu. On veut aussi tendre à diminuer la toxicité de la chimiothérapie qui est administrée aux enfants. Ce qu'il faut savoir, lorsqu'un enfant reçoit de la chimiothérapie, il va recevoir des doses excessivement fortes, plus fortes que chez un adulte. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité de régénérer leurs cellules rapidement, donc ils peuvent subir ces doses qui sont plus importantes. Cependant, il peut arriver parfois que des séquelles vont être développées, etc. Oui. Donc, la recherche clinique, on continue à travailler pour tendre à diminuer la toxicité de la chimiothérapie. Puis pourquoi aussi, c'est que, par exemple, les tumeurs cérébrales, ça demeure encore notre cheval de bataille parce que c'est le cancer qui est le moins bien guéri chez les enfants actuellement. Okay. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. On parle d'à peu près 15 % de taux de survie actuellement. Et quand il y a une survie, il y a des séquelles qui sont parfois très importantes chez les enfants. Donc, c'est encore important de donner à l'EUCAN pour la recherche clinique. Et nous, on a créé aussi un fonds de dépannage là, qui est important pour la COVID particulièrement, là, pour répondre aux besoins des services essentiels de nos familles.
Et Madame Matt, ma dernière question va être un petit peu plus personnelle. Moi, dans mon entourage, je vous dirais qu'il y a une histoire qui me touche puis qui continue à me toucher particulièrement aujourd'hui. C'est l'histoire du petit-fils d'un de nos collègues. Nous, on travaille ici avec Louis Lacroix, qui est journaliste pour Cogeco.
Oui,
et Louis Lacroix a un petit-fils.
Le beau Miro.
Le beau Miro, qui est un bébé qui a aujourd'hui 8 mois à peu près. Et Miro a été diagnostiqué avec un cancer à 8 semaines. Moi, je sais pas, tous les enfants qui ont des cancers, ça me touche, mais un bébé de 8 semaines qui doit faire face à des traitements aussi agressifs comme ça, ça m'a vraiment touchée. Puis je sais même que Miro n'a pas eu accès à certaines phases de son protocole de traitement parce qu'il était trop jeune pour recevoir ces traitements-là. Vous, en 17 ans de carrière à l'EUCAN, est-ce qu'il y a eu des cas qui vous ont particulièrement touché ou qui encore aujourd'hui vous ont marqué?
En fait, je vous dirais que chaque cas est unique, chaque cas me touche particulièrement. On est vraiment inspiré par tous les cas. Miro particulièrement, je connais parce que j'ai l'avantage de pouvoir travailler sur le terrain beaucoup. Je suis au développement philanthropique, mais je gère tous les services aux familles. Donc, je connais les parents de Miro. On a d'ailleurs fait une belle vidéo avec lui. C'est un enfant d'ailleurs, faut que je le dise là, parce que cet enfant-là, il est toujours souriant.
Oui.
Je l'ai jamais vu pleurer.
Il sourit tout le temps.
Il est toujours heureux. C'est quand même assez particulier. Je pourrais vous transmettre la vidéo de Miro si vous le souhaitez. Après, on a l'autorisation des parents. Ça sera un beau clin d'œil à leur faire. En fait, je vous dirais que chaque cas est particulier. Puis moi, ce qui m'inspire particulièrement, c'est de voir la résilience des enfants, la résilience des parents. C'est des leçons de vie à chaque fois. Donc, je peux pas.
Ouais,
j'ai de la difficulté à trouver un cas qui m'a surpris plus que d'autres parce que je vous dirais, tu sais, tout le monde, on connaît des gens qui ont été atteints. Puis chacun a son histoire. Moi, je dis toujours, chacun a son histoire. Tu sais, j'ai des familles qui sont éprouvées par le cancer d'un enfant. Moi, je me rappelle très bien, il y a la première année que je suis arrivée à Leucan, il y a une famille de 5 enfants dont le bébé était atteint. Et ils vivaient sur une ferme et leur ferme a passé au feu juste 2 semaines avant Noël. Okay. Alors, juste pour vous donner un exemple, là, il y a beaucoup d'histoires, donc des histoires touchantes. T'sais. Nous, on couvre tout l'Est du Québec, donc on a des familles qui viennent des Îles-de-la-Madeleine, mais des familles de la Gaspésie. Vous pouvez vous imaginer aussi pour ces familles-là qui viennent de si loin. Je me rappelle d'une famille d'Anticosti, de l'île d'Anticosti qui a été obligée de déménager. Ouais. Donc, des histoires, on en a plein, puis je vous dirais que il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Là, chacun a son histoire.
Bon, mais Madame Matt, je vais essayer de faire une très, très bonne job pour raser Jean-Simon dans les prochains jours. Là, ça va valoir la peine. Mais je pense pas que ses cheveux vont être assez longs pour faire un don, malheureusement. Mais
ouais, c'est quelle longueur exactement?
Ouais, c'est
par curiosité pour pouvoir faire
c'est
un don.
C'est 8 pouces.
Ah non, t'es loin de ça. T'es très, très loin de ça. Non. Madame Matt, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir parlé encore une fois de l'importance de cette cause-là.
Merci infiniment.
Merci.
Puis je te remercie aussi d'avoir de t'être engagé. Puis merci de ton implication. C'est vraiment très, très apprécié. En même temps, merci parce que vous nous permettez de mieux faire connaître notre cause à chaque fois que vous nous recevez en entrevue. Alors, merci à vous deux.
Ça fait c'est plaisir, la moindre des choses. Nathalie, au plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Nathalie Matt est directrice provinciale développement philanthropique à Leucan. Elle travaille depuis plus de 17 ans maintenant au service des enfants atteints de cancer et leur famille. Si vous connaissez pas l'histoire de Miro, en passant, il y a une page Facebook qui a été faite pour suivre un petit peu l'histoire de ce bébé-là. Évidemment, bon, moi, je la suis particulièrement parce que ça fait partie de nos collègues, dans le sens que c'est Miro, c'est le petit-fils de Louis Lacroix, qui est un de nos collègues ici. Mais je pense que même si c'était pas quelqu'un qui est un minimum dans mon entourage, j'aurais suivi cette histoire-là quand même, parce que premièrement, ça sort vraiment d'énorme. Miro, il y a un cancer qu'il aurait pas dû avoir à son âge. C'est un cancer qui se développe habituellement dès l'âge de 1 an pour les enfants. Et bon, comme je vous disais, il y a certains aspects de son protocole de traitement auxquels il a pas eu accès parce que il était trop jeune pour les recevoir, ces traitements-là, qui sont quand même très agressifs.
Oui.
Et 8 mois plus tard, il se bat encore. Là, il est dans le dernier sprint de son traitement. Alors moi, je suis son histoire vraiment, puis ça me touche énormément. Vous pouvez suivre son histoire aussi via une page Facebook qui s'appelle, je pense, Des nouvelles de Miro, si je ne me trompe pas.
Absolument.
C'est public. Là, vous
d'ailleurs, j'aimerais
ça
y parler la semaine prochaine à Pierrick. Là.
À Pierrick, oui, le fils de Louis Lacroix.
Là. De lui parler. Hey, dernière petite mention, là, juste pour les dons, là, je ne veux vraiment pas vous solliciter plus que ça. C'est juste vous mentionner que c'est encore possible de même d'embarquer dans l'équipe pour vous raser, parce qu'il y a des auditeurs qui sont embarqués avec moi pour se raser. Il y en a 3 plus précisément. Puis si vous vous dites, moi je vais embarquer, il n'y a personne qui va me donner, je ne ramasserai jamais d'argent, franchement, tout le monde se fout de moi. Ben Patricia, qui a embarqué très, très, très rapidement dans l'équipe,
oui.
Là, est rendue à 1195 $ de dons à elle tout seule.
Wow.
Juste pour elle, ça vous donne une idée.
Incroyable.
Donc, c'est pas vrai là, que vous ne pouvez pas ramasser d'argent. Vous êtes capable de ramasser d'argent si vous voulez. Il n'est pas trop tard, il reste quelques jours. C'est le dernier sprint. Puis moi, Leucan, ils m'ont dit, dans le dernier sprint, c'est là que le monde donne le plus parce que bon, les gens procrastinent.
Oui, c'est vrai.
Fait qu'il reste encore le temps de vous inscrire. Pour le faire, très facile, www.webleucan.com/cogeco, C-O-G-E-C-O, très, très simple. Ou encore ma page Facebook personnelle, Jean-Simon Buis, vous allez trouver un paquet de liens qui vous permettent d'aller donner ou de participer. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir à vos côtés.
Quand est-ce qu'on fait ça en passant?
Je pense qu'on va faire ça jeudi prochain.
Ouais, faut que ce soit semaine prochaine absolument.
Ouais, parce que toi tu pars en vacances. Hein?
Ouais.
Ouais, probablement jeudi prochain. Là, je vais sauter la date exactement. Puis il faut que Sylvain soit là pour commenter aussi.
Puis on va être en Facebook Live, fait que les auditeurs, inquiétez-vous pas, vous allez tout voir ça. Vous allez voir la longueur des favoris de Jean-Simon.
Vous allez voir mon coco rasé, tel Lex Luthor.
C'est bon.